Lecture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Jean-Luc Génère, bonjour.
Bonjour.
On va parler de l'actualité théâtrale et puis avec vous, Anne Baquet, naturellement, nous parlerons de Fatatra, cet inventaire de Jacques Prévert que vous jouez au Théâtre du Poche Montparnasse. Auparavant, quelques pièces à voir à Lyon où vous nous écoutez sur 88.4. Ne manquez pas Intramuros d'Alexis Michalik au Théâtre Comédie Odéon. Nous sommes en prison, un jeune prof de théâtre et son assistante s'apprêtent à donner des cours de théâtre pour les incarcérés. Surviennent deux postulants, deux seulement, mais pas n'importe lesquels, puisqu'ils partagent la même cellule. Ce même Intramuros que vous pouvez voir jusqu'au 30 mars à Bordeaux, vous nous captez sur 88.9 au Théâtre des Sans-Noms. Toujours au Théâtre Comédie Odéon de Lyon, ne manquez pas Les Faux British, l'histoire d'une troupe de théâtre amateur qui monte son spectacle de fin d'année. Rien ne mais ils veulent aller au bout coûte que coûte. C'est une soirée hilarante, un grand succès et une prouesse pour les comédiens, les vrais cette fois. Vous savez que j'aime particulièrement l'humour de Sébastien Castro. Justement, sa pièce « J'ai envie de toi » se joue au 3T Café Théâtre à Toulouse où vous nous écoutez sur 91.9.
Il n'y a que des reprises parisiennes.
Mais oui, c'est ça qui...
C'est atterrant.
C'est merveilleux.
Oui.
Alors, à Paris, Anne-Marie Lazzarini reprend le spectacle de Pierre Dac, L'os à moelle. Au Petit Montparnasse, parlons de Prima Facie de Suzy de Miller avec Élodie Navarre, mise en scène par Géraldine Martineau, un seul en scène percutant sur le sexisme. On y reviendra. Je vous rappelle aussi que Les Téméraires, Zola et Méliès au cœur de l'affaire Dreyfus, se jouent toujours à la Comédie Bastille, un des spectacles les plus élégants et forts de cette saison. Et puis au Théâtre Rive Gauche, Franck Desmet joue Kessel, un seul en scène époustouflant que je recommande vivement. C'est un événement. Voilà, vous n'avez pas tout noté, mais
et là, moi aussi, hein, pour le Kessel, oui.
Vous êtes d'accord. Alors,
d'accord avec le Kessel.
Jean-Luc Génère, vous avez un certain nombre de pièces avant que nous passions à Fatatras.
Oui, oui. Bon, bah, écoute, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, on va dire un petit peu de mal quand même des Diaboliques qui se jouent au Poche Montparnasse, qui est une adaptation de notre
Christophe Barbier.
Voilà. Alors, il a fait une adaptation absolument incompréhensible. Je ne sais absolument pas ce qui lui a passé par la tête, parce que c'est un homme qui a du talent. D'ailleurs.
Et de l'intelligence.
Et de l'intelligence, et surtout de l'intelligence. Et d'ailleurs, je recommande la lecture de son nouveau livre qui vient de sortir, là, Le Héros perdu, où là, il passe toute la politique au crible de Corneille et de Racine. Les Cornéliens, les Raciniens, tout ça est excellent, excellent. Et c'est d'autant plus triste de faire cette adaptation, mais vraiment, totalement incompréhensible. Il y a quatre nouvelles de Barbé d'Aurevilly. La première, on ne peut rien comprendre. Alors ensuite, ça s'arrange un tout petit peu dans les trois autres, mais c'est terrifiant. Alors il fait une espèce de mise en abîme avec... Ça commence par une espèce de procès, comme ça, le procès un petit peu à la Baudelaire, où un juge méchant dit qu'il ne faut pas jouer, il faut pas publier un texte comme celui-ci. Et puis alors après, les comédiens, dans une mise en abîme, se mettent à jouer les personnages. Mais il le joue comme dans un Reader Digest, c'est-à-dire en restant sur l'anecdotique et non pas sur le fond. Il n'y a pas de psychologie.
Bon, c'est du Wikipédia.
C'est Wikipédia, c'est exactement ça. Ça n'a, mais strictement... Mais bon, alors ensuite, bon, il y a les comédiens corrects, comme d'habitude. Il y a mon vieux camarade Gabriel Ledoux, comme je disais dans mon article là, dans Valeurs Actuelles, qui a de plus en plus une tête de vieux chef indien, donc qui est très bien, les autres comédiens sont très bien, ça n'est pas le problème. Mais c'est cette espèce de mise en abîme qui fait qu'on n'a aucune empathie avec les personnages.
Bon, donc pour Christophe Barbier, on va retenir Le Héros perdu, Corneille ou Racine, le dilemme français, publié aux éditions Pluriel.
Ça,
un autre spectacle, Jean-Luc Génère.
Alors on va faire un petit équilibre avec du bon.
Oui, allez.
Ensuite,
allez.
On reviendra sur du mauvais.
Et puis après, on fera du très bon avec Fatatras.
Voilà, on terminera par le parfait. Rossignol à la langue pourrie. Ça, c'est à Essayon. C'est vraiment très bien. Vraiment très bien. C'est avec Agathe Quelquejet. Je ne sais pas si tu connais évidemment.
Mais c'est un seul en scène.
Oui, c'est un seul en scène.
Ah, ben oui, mais vous m'avez dit de ne pas aller voir les seuls en scène.
C'est vrai. Là, c'est Jean Rictus. C'est les textes de Jean Rictus qui sont magnifiques. Tu connais Jean Rictus. Peu de gens le connaissent, mais c'est vraiment un très très grand poète avec une langue de argotique qui est absolument magnifique. C'est mis en scène par quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est Guy-Pierre Coulot, hein, qui en général fait des grands spectacles. Là, c'est effectivement, il a très très bien dirigé Agathe Quelquejet. Il y a notamment un un des poèmes qui s'appelle Une idylle, qui est absolument extraordinaire, et où vraiment il y a une force dramatique dans ce poème, et où elle joue un jeune garçon, elle est absolument extraordinaire. Donc ça c'est vraiment bien, quoi.
Bon, voilà. Donc à voir, c'est tout.
C'est tout. Alors ensuite, je vais dire du mal, je peux encore. J'ai le droit. Hein.
Alors c'était à l'Essaillon.
C'était à l'Essaillon. Oui. Ça se joue deux jours par semaine.
Voilà, c'est les dimanches à 18h et les lundis à 19h15 jusqu'au 18 mars.
Voilà.
Alors dites du mal de quelque chose et après on va dire du bien.
Voilà, ensuite...
Ça va nous faire du bien.
Je suis allé voir avec grand bonheur dans l'idée, parce que j'adore cette pièce, Un chapeau de paille d'Italie.
Ah, que vous avez vu au Lucernaire.
Oui,
alors,
Lucernaire.
Il paraît que c'est très moderne, coloré et merveilleux.
C'est exactement ça, voilà. C'est très moderne, coloré et nul.
Bon, d'accord. Ben, je vais quand même aller le voir.
C'est atterrant de bêtises.
C'est vrai.
De n'importe quoi.
Donc, il faut aller voir Françon plutôt.
Il aurait mieux valu aller voir Françon, quoique, si, d'après ce qu'on disait, je ne l'avais pas vu. Mais bon. Mais c'est terrible, quoi. Ce sont des jeunes qui s'amusent. Ça se passe dans une espèce de décor au milieu de doudous avec des oreillers. Ils se jettent les oreillers et ils jettent les doudous dans la salle. Et la salle relance les doudous. Tout ça, ça s'amuse comme des fous.
Mais c'est bien.
Pour ne rien dire, la pièce n'existe pas. Personne ne peut comprendre ce qui se passe dans la pièce, évidemment, puisque la pièce, ils s'en foutent complètement. Et on a vraiment le sentiment qu'ils pourraient faire exactement la même mise en scène avec n'importe quelle autre pièce. C'est ça qui est absolument intéressant.
On met pas avec
Lucernaire montre maintenant des choses absolument étonnantes, quoi.
Bon.
Et ce chapeau de paille d'Italie, c'est quand même grave, parce que au bout du compte, c'est quoi? C'est de dire, ben, on va utiliser la biche pour faire venir des spectateurs. Ensuite, les gens qui viennent voir la pièce de la biche, ben, ils voient rien du la biche, rien. Rien, il y a plus
qu'un... Ils voient du Michel.
Ils voient des jeunes gens qui font joujou avec le théâtre. Parce que c'est tellement plus facile de faire joujou avec du théâtre que de se mettre dans le cambouis d'une pièce, d'aller travailler, parce que la pièce, elle est extraordinaire, elle est extrêmement difficile. Il y a une vraie psychologie, il y a une vraie intelligence dedans. Et tout ça, c'est rien, il n'y a rien, c'est le néant total. C'est... Alors évidemment, le public est aux anges. Comme peut-être tu vas l'être, toi, puisque tu gardes...
Ça donne envie,
d'enfants.
Hein, ça donne envie.
Ça donne envie d'y aller, moi.
Jean-Luc, ça donne envie.
Voilà.
Bon, alors... Donc, nous allons passer, si vous le voulez bien, on retourne au Théâtre de Poche, où vous n'avez pas aimé le spectacle sur Barbet de Révelli de notre ami Christophe Barbier. Et cette fois-ci, alors, on descend à la cave, vous savez, et à la cave, du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 15h. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu le spectacle.
Non, je ne l'ai pas vu.
Alors,
heureusement, sinon je ne serais pas là.
J'étais absolument envoûté.
Puisque Anne est là.
Vous l'avez vu. Évidemment. Ah oui, d'accord.
Alors, dans la famille Baquet... il y a Dimitri, il y a Grégory, il y a Stéphane et il y a Anne.
Et Marie aussi.
C'est pas un baquet, mais
c'est pas un baquet.
Non, mais c'est presque un baquet quand même.
Donc ils descendent tous du grand violoncelliste Maurice Baquet et ils sont absolument extraordinaires. Quel que soit le spectacle, quand vous voyez Baquet, il faut y aller.
Merci.
Voilà. Ça, c'est sûr.
Parce que à chaque fois.
Et en plus, il y a Farré.
Même si on n'est pas tout à fait d'accord avec la proposition, on sait que c'est toujours de qualité et d'élégance. Bon, alors là, non seulement il y a Anne Baquet, mais en plus, il y a Farré. Et Jean-Paul Farré, que l'on connaît, que les auditeurs connaissent bien, a une diction absolument épatante, qui a une voix formidable et qui a une présence sur scène. Alors, c'est quand même assez compliqué, mais vous êtes complètement complémentaires.
On a découvert ça. On a découvert parce qu'on se connaissait de nom, mais on n'avait jamais travaillé
ensemble.
Vous n'avez
jamais travaillé ensemble?
Non, jamais. Mais...
On a l'impression que vous êtes complices depuis
toujours. Oui, on a un peu la même énergie. Voilà, je dirais. En scène, on a un peu la même énergie, donc on aime bien. Et puis il a une poésie, Jean-Paul.
C'est un passionné de musique aussi.
C'est un passionné de musique. Il a l'habitude des accessoires, il a l'habitude de changements. Il a l'œil qui frétille.
50 enfants.
Donc voilà.
Le spectacle sur les pianos était absolument étonnant.
Ah ben oui. Ouais, oui, mais j'allais le voir d'ailleurs.
Ouais, oui,
le voir, c'était formidable.
Alors on a des textes et des chansons, toutes et de Prévert, de Jacques Prévert.
Absolument.
On n'y croit pas. Il y a des mots qui sont tellement modernes, on se dit, mais ça a été écrit hier. Enfin, comment vous avez choisi ces textes?
J'ai repris la Pléiade.
Oui.
J'ai relu. Et puis, j'ai eu la chance aussi de...
Oui. Il y a un volume complet, Prévert?
Il y en a trois.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Il y en a trois. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi les livres sur le groupe Octobre, parce que j'ai été chercher de ce côté-là aussi, parce que papa en a fait partie pendant un petit moment.
Et donc j'ai papa, c'est Maurice Bakker, voilà,
et puis j'ai appelé aussi Eugénie Bachelot, qui est la petite fille que je connais aussi, parce que la famille Prévert est quand même c'est quand même assez proche de ma famille.
Mais oui.
Donc c'est vrai que j'ai eu... Ça n'était pas très compliqué et... C'était un vrai plaisir de relire. Alors après, le choix, c'est très dur.
Le choix est absolument incroyable.
Parce qu'il est très, très prolifique.
Parce que non seulement le choix est... Bon, mais en plus, le rythme du spectacle, je trouve que tout s'enchaîne avec énormément de naturel.
Bah, on a travaillé.
Bah, oui, non, mais on n'est pas dans une espèce...
Ça arrive de temps en temps au théâtre que les gens travaillent.
Non, mais on n'est pas dans une... Non, mais Jean-Luc, je vous le dis parce que vous
n'avez
pas vu. On n'est pas dans une sorte de cabaret où il y a des numéros. On est dans un espèce d'enchaînement comme ça. Et il y a une sorte de fondu enchaîné, à la fois de textes, de chansons. Alors, les chansons admirablement mis en musique par Cosma.
Eh oui, c'est Cosma.
Et oui, qui est Joseph, qui n'est pas Vladimir. Ils n'ont rien à voir, hein, comme
ça
vous le savez.
Ça ne s'écrit pas pareil.
C'est pas pareil, et ça ne s'écrit pas pareil. Et toutes ces chansons qu'on a connues par les frères Jacques.
Oui, entre autres, bien sûr. Ouais, il y a eu Mon Temps, Gréco, tout le monde y a...
Et alors là, on retrouve La Pêche à la Baleine, Les Enfants qui s'aiment, L'Orgue de Barbarie, bien évidemment, Dans ma maison, Déjeuner du matin, etc. On est sous le charme. Quel est le moment qui vous a... Parce que quand vous avez choisi, il fallait choisir un Prévert tendre, un Prévert drôle, un Prévert surréaliste, un Prévert... Enfin, il y a tellement de Prévert, finalement.
Bah, on essaie de mélanger tout. Alors, c'est vrai que là, j'ai été beaucoup aidée par Gérard Robert, qui est à la mise en scène. Moi, j'ai fait un premier tri. Donc, j'avais en gros 90 pages. Et des 90 pages, il en est resté 40.
Ben oui.
C'est lui qui a fait le montage. C'est lui qui a fait le montage. Ça, faut avouer que c'est Gérard qui a fait le montage de A à Z. Il a choisi la scénographie. Ça a été après réalisé par une magnifique décoratrice. Il a choisi pratiquement tout. Et ce qu'il voulait surtout, c'est qu'en général, c'est vrai que ce soit Jean-Paul ou moi, on est toujours accompagné d'un piano à queue, qu'on a quand même. On ne dévoile pas tout. C'est vrai qu'on voulait essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et donc, le choix s'est fait. C'est Gérard qui a fait le choix.
Qui a fait l'orchestration à l'Orgue de Barbarie?
Alors ça, c'est Damien Edonchel, qui est mon partenaire pianiste magnifique.
Mais c'est formidable!
Et on a adapté, alors, parce que l'Orgue de Barbarie, c'est un instrument où on a un certain nombre de notes. On a quand même un cahier des charges un peu serré.
Ouais.
Donc tous les arrangements ne vont pas, donc il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Et ensuite, apprendre à tourner l'appareil.
Oui.
Et de chanter en même temps.
Et ça, c'est notre ami Jean-Paul.
Qui s'y colle.
Qui s'y colle. Et j'avoue que ça a dû être assez compliqué.
Bah, c'est pour ça que j'ai dit, on a beaucoup répété. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup répété. Et Jean-Paul fait partie des artistes qui aiment répéter.
Ah, c'est un besogneux, hein, c'est un travailleur incroyable.
Oui, et moi je le suis aussi.
Et puis il a la patience du détail.
Oui, et moi comme je suis un peu laborieuse, j'ai besoin aussi de beaucoup répéter, donc ça a été parfait.
Alors je reviens sur la musique, parce que à la fois dans Les Enfants qui s'aiment et l'Orgue de Barbarie, il y a des harmoniques, un arrangement qui a été fait à partir de la partition de Cosma. Oh, on est dans une poésie. Moi, j'ai écouté ça, j'avais les larmes aux yeux, c'est très très beau.
Ça nous rappelle notre enfance, ah ben
complètement.
C'est pour ça, Christophe. Il fallait le dire.
Mais c'est pas si éloigné.
Mais non.
Ah, voyons.
Mais le triste de tout ça, c'est que ça se termine le 3 mars, c'est ça qui est dommage.
Oui.
Parce que là, oui, ça donne vraiment envie de
Alors, il faut que tout le monde vienne, peut-être qu'on fera une petite...
Et est-ce que vous allez le reprendre?
Eh bien, voilà. Et donc venez tous très nombreux et on va peut-être pouvoir reprendre.
Ah bah il faut non seulement le prolonger mais le reprendre parce que c'est une soirée...
Donc là, il faudra me prévenir.
C'est une soirée de poésie. Vous voyez, Jean-Luc, c'est une soirée où on se laisse complètement porter. Alors ensuite, moi, ce que je trouve épatant, c'est qu'ils sont tous les deux... Alors Jean-Paul a un côté clownesque. Anne Baquet, c'est quand même une voix, une cantatrice, une chanteuse. Ils ont tous les deux une diction et on est pris à la fois dans ce monde de l'enfance, mais aussi dans un certain monde d'une insécurité, quelquefois.
Et puis les textes sont pas... Il y a une deuxième lecture.
Ah oui, c'est pas forcément... C'est pas forcément le roi Babard, hein.
Non, 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 il y a des petites critiques, mais c'est toujours fait dans cette bonne humeur qu'était d'ailleurs toute cette équipe de cette époque.
Ouais,
moi, j'ai des souvenirs. Hein.
Vous l'avez connu.
Alors moi, je ne l'ai pas connu, j'aurais pu.
Oui.
Non, mais par contre, j'ai connu tous les gens autour de lui, dont son frère, par contre, très bien, Pierre Prévert, que j'ai très bien connu, sa fille, Catherine. Donc, toute cette famille se marrait bien.
Oui.
Avec Trauner, que j'ai connu, Grimaud, Louis Bessière, toute l'équipe de cette époque-là, ils sont morts vieux. ils ont eu la chance...
Et en bonne santé, j'espère.
Et en bonne santé. Et donc, j'ai eu la chance de participer un peu à ces soirées où... Bah, il se marrait.
Il se marrait. Mais alors, il se marrait pas à la façon de Pierre Dac.
Non, non, c'était toujours...
Il y a une espèce de...
Il y avait un esprit quand même.
Oui, et puis...
Pierre Dac aussi.
Bien sûr, mais c'est un autre esprit. C'est-à-dire qu'il y a une enfance, encore une fois, je répète le mot, il y a une enfance, il y a une innocence chez Prévert, et une volonté de maintenir cette innocence. On l'a dans L'Orgue de Barbarie. Hein.
Oui, on l'a, et en même temps, quand on creuse un peu... Il y a une deuxième lecture qui fait
le mal partout.
Qui fait que c'est bien créé, bonne critique quand même de la société,
quelle connerie la guerre.
Oui, et puis de la guerre, de tout ce qui était l'ouvrier aussi, comment il vivait à cette époque-là, quel était il aidait beaucoup, hein, il faisait beaucoup de textes de cette époque. Ils allaient jouer dans les usines, c'était des gens qui étaient amoureux du théâtre et en même temps amoureux des mots parce que il adorait les mots, Prévert. Et puis c'est du vocabulaire très simple, je trouve.
Mais oui.
C'est simple et en même temps ça coule. Alors, c'est incroyable.
Vous n'avez pas donné le poème le plus court de la littérature française.
On me l'a dit, mais j'ai oublié.
Ça s'appelle Le Paris. Je vous le cite. Le Paris. Un certain Blaise Pascal, etc., etc., etc. Terminé. Donc je vois Jean-Paul Faré, pendant qu'il était en train de préparer et de répéter votre spectacle Fatatras, l'inventaire de Jacques Prévert au théâtre de Poche Montparnasse, Anne Baquet, et je lui raconte l'histoire de ce poème qui était un peu importante pour moi, et je lui raconte, et j'étais persuadé qu'il allait le dire. Mmh. Et il a mis un rideau de fumée, il n'a rien voulu révéler du spectacle avant la première.
Oui, parce qu'on garde un peu la surprise.
Et en effet, la pêche à la baleine...
Vous ne l'avez jamais vu comme ça.
Macha, son fils Prosper, je ne veux pas y aller. Pourquoi donc tu ne veux pas y aller? Dis donc. Et madame... et la baleine qui dit en passant, Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez, la baleine est partie. Dans une vingtaine d'années, sans doute, elle reviendra.
Absolument.
Et on est complètement pris, encore une fois.
Écoutez, tant mieux.
Quel a été le moment le plus difficile pour vous dans ce spectacle?
Mais il n'y en a pas eu.
Eh bien, voilà. Eh bien, ça se sent.
On s'amuse quand même tous les soirs.
Vous disiez que vous avez beaucoup travaillé. Et c'est bien évident pour que vous soyez aussi raccord avec lui, avec
ne
le texte,
pas que
avec
ça
la
se
musique.
Sent, ça serait
non, ça ne se sent pas justement.
Voilà.
Mais c'est tellement
précis. On a beaucoup de choses ensemble.
C'est tellement précis que c'est un truc qui peut pas s'inventer.
Oui, oui.
C'est la prosodie, à la prosodie au mot près. Hein,
ah oui, oui.
On est souvent ensemble, et c'est vrai que pour que ce soit synchrone, faut l'avoir répété.
Et on sent que cette fluidité. Cette nature, ce côté très naturel, bon, ça vient pas au premier jet, et en même temps, on sent que vous amusez tout le temps, c'est-à-dire que vous cherchez aussi à vous épater l'un l'autre.
Oui, en même temps, on est concentré, c'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de... D'ailleurs, Jean-Paul aussi a fait beaucoup de spectacles physiques.
Oui.
Alors là, c'est un peu moins physique que ce qu'on fait d'habitude, mais on a une petite concentration, d'abord parce qu'on a pas mal d'accessoires, on a des petites choses, on a des... Voilà, mais... On aime ça, je crois qu'on aime ça tout simplement, et je trouve qu'on a beaucoup de chance parce que on joue aux poches, c'est à 19h, les gens sont ravis, donc que demande le peuple?
C'est un théâtre merveilleux, tenu par des gens merveilleux. Non, non, mais c'est vrai.
Non, j'ai beaucoup de chance.
J'évoquais les frères Jacques tout à l'heure, ils vous ont inspiré?
Mais bien sûr, parce que je l'ai écouté enfant.
Mais oui.
Et oui, ça fait partie.
On était tous au Saint-Georges.
Et sûrement, et puis, bon, moi, je ne l'ai pas forcément... Je les ai vus sur le tard, moi, les frères Jacques. Mais on partait en voiture, vous savez, comme souvent en famille. Ça, l'été, et on avait la petite cassette qu'on mettait pendant le trajet. Et là, forcément, on avait les frères Jacques en cassette pendant 8 heures. Donc, on avait le temps d'étudier la chose.
Il faut dire que l'album Cosma, frère Jacques, était extraordinaire. Il commençait à la face A... Enfin, tout le monde va penser que je suis du siècle dernier, mais oui.
Mais oui, il faut le dire.
La première de la face A, c'était la fête.
Ah bon ? Je ne me souviens même plus.
Et la fête, vous le donnez ?
Non.
Eh ben non. Et alors, j'ai été étonné parce que vous ne le donniez pas et que c'est... Et que c'est papapapam, papapapam, et ça va dans tous les sens.
Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas pu mettre, de toute façon, en 1h10, qu'est-ce que vous voulez ? Il fallait bien faire un choix.
Mais oui, mais et votre choix, il était prédestiné par quoi ? Quelle était la ligne éditoriale ?
On s'est dit, c'était simple, c'était les chansons, il fallait que ce soit des chansons connues pour la majorité, ce qui nous permettait dans les textes de mettre 2-3 choses que personne ne connaissait. Les textes un peu politiques, extraits de pièces, parce que Jacques a écrit des pièces avec le groupe Octobre, il jouait dans les usines. Et donc, comme il disait beaucoup de choses très, 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 très sérieuses et très revendicateurs, ils aimaient avoir tout d'un coup un truc complètement surréaliste, comme j'ai tué mon frère, je lui ai coupé la tête, comme je fais un moment dans le spectacle. Mais ce sont des petites scénettes que. Et j'avais envie d'essayer de retrouver l'atmosphère de ce qui était vraiment. Les représentations avec la troupe Prévert, avec le groupe, etc. Et le 2-3 personnes qui connaissaient Prévert sont venues, m'ont dit, mais j'avais l'impression de rentrer dans la fontaine des 4 saisons. Je sais pas si vous avez, ça vous dit quelque chose. Et donc je me suis dit, c'est qu'on a réussi à essayer de retrouver un peu l'atmosphère. Alors on peut nous dire que c'est un peu ringard, peut-être un peu vieillot, mais en tout cas on a voulu rester, c'est voulu. On n'a pas voulu rajeunir, on a voulu simplement montrer comment ça se passait, voilà, tout simplement.
Ça pourrait se refaire aujourd'hui dans les usines, à votre avis ?
Mais ça, pourquoi pas ?
Prévert ?
J'en sais rien.
Il n'y a plus que des machines dans les usines.
De toute façon, maintenant, il y a de moins en moins de monde.
Donc, voilà.
Ou alors, il faut que les ouvriers fassent du théâtre. Mais bon,
non, voilà. Ou en prison.
Ah ben oui, mais en prison, il y a pas mal de choses qui s'y passent quand même.
Oui. Parce qu'effectivement, dans votre spectacle, on s'évade.
On a réussi alors.
Oui, on est un peu comme l'oiseau dans la cage, vous savez.
Oui, mais je voulais le mettre, j'ai pas pu.
Ben pourquoi ?
Pour faire le dessin d'un oiseau, c'est
ben
ça.
Oui, évidemment.
Ben, je voulais.
Et on pense à ça pendant toute la soirée. On dit ça y est, vous sortir.
J'ai pas mis parce qu'on avait 1h10. Non, on avait 1h10 comme. Il a fallu faire un choix.
Vous avez les scolaires qui viennent ?
Oui.
Et comment sort-il ?
Alors il y en a un la dernière fois qui a dit à Gérard d'ailleurs, il s'est retourné, il a dit « C'est drôle, on pensait s'emmerder. Eh ben, on a passé une bonne soirée.
» Bon, ben voilà.
Ça, c'est souvent avec les...
Mais oui,
ils ont tellement peur du théâtre avant que quand on arrive à les faire venir...
Ben parce qu'on sacralise.
Ils sont heureux, ben oui. Ben
alors, il ne faut surtout pas. Or là, on est vraiment...
Et puis là, c'est de la poésie, c'est encore un autre exercice.
On est vraiment entre nous, parce qu'on est dans la cave. Je sais que Stéphanie Tesson
oui,
n'aime pas
tous...
que je dise ce que c'est.
Dans la salle cabaret.
Mais je l'appelle la cave. Oui, c'était Philippe Tesson qui a appelé ça la salle cabaret. Mais bon, bref, on est dans la cave. On est en sous-sol et on est vraiment entre soi, c'est-à-dire que il y a quoi, une cinquantaine de places.
C'est 90.
On peut
même monter à 100 si on sert.
Bon, bah alors
et puis c'est un espace qui est beaucoup plus intéressant que l'autre salle. Hein.
Oui, moi j'aime beaucoup cet espace.
Beaucoup plus intéressant parce que dans l'autre salle, c'est une salle italienne tout à fait normale, tandis que là, au moins, on peut faire un dispositif.
Comme dans la salle 2 de votre théâtre du Nord-Ouest parisien, mon cher Jean-Luc.
Absolument.
Génère. Qu'est-ce qui s'y passe dans la salle 2 en ce moment ?
Là, j'ai ma première tout à l'heure.
La première de
Jeanne d'Arc. Là.
Bon, il faut aller voir Jeanne d'Arc en ce moment. Qu'est-ce que vous avez comme autre spectacle en quelques secondes ?
Il y en a plein.
Donnez-nous deux titres.
Pas les entretiens du professeur Y, par exemple.
Voilà, avec de Louis Ferdinand Céline. En tout cas, il ne faut pas rater ce fatatras. L'inventaire de Jacques Prévert, c'est jusqu'au
3 mars.
Donc il ne reste plus que 2 semaines et demie. Il faut s'y précipiter. Et puis j'espère que vous allez avoir de nombreuses tournées, que vous irez au théâtre Comédie Odéon à Lyon.
Bien sûr.
Mais oui, puisqu'ils ne reprennent que des spectacles de Paris. Donc
que vous irez au 3D Café Théâtre de Toulouse. Il y a énormément de possibilités. Merci infiniment, Anne Baquet.
Merci, Christophe.
Je rappelle encore Fatatras, inventaire de Jacques Prévert au théâtre de Poche avec Jean-Paul Faré, l'excellent Jean-Paul Faré, vous faites un duo merveilleux. Merci beaucoup, Jean-Luc Génère.
Je t'en prie.
Vos indications, on va venir vous applaudir naturellement au théâtre du Nord-Ouest parisien. Merci Cédric Cobat pour l'organisation et François Dieudonné, Philippe Alpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Nous nous retrouvons lundi où je pense que nous allons parler de la restauration de Notre-Dame de Paris. Chiche, peut-être, on verra. Allez, passez un bon week-end, je vous embrasse.